Good morning. This is CKCU Literary News. I am Hans-George Ruprecht, bringing you a feature interview recorded earlier with the Acadian poet Guy Jean, now living in Gatineau, Quebec. Highly regarded in the United States, in Europe, and even in the Middle East, Guy Jean has published 8 books of poetry, 2 of which have been translated into English by Kate Ferris and Ilya Kaminsky under the title If I Were Born in Prague, published by Argos Books in 2011, and the second one, Morning Plows the Winter, in 2013, now available in its second hardcover and paperback edition at Merrick Press Grosse Pointe Farms in Michigan. Guy Jean's new book of poetry entitled Fossiles qui gisent en mes rêves, Poème archéologique, came out at Édition Personnage in Moncton, New Brunswick in 2014. A few weeks ago, I have had the great privilege of being invited by this distinguished poet to talk about his work at his residence. Here is now a slightly shortened version of our conversation, which can be heard in its entirety at carlton.ca/litnews, and it can easily be found then under podcast 2. Bonjour Guy Jean.
Bonjour Hans.
Nous nous sommes proposés de nous revoir sur le terrain de vos excavations archéologiques car nous voulons dialoguer sur votre nouveau recueil qui s'intitule Fossiles qui gisent en mes rêves, sous-titré Poème archéologique. Pourrait-on dire que l'acte d'écrire, le vôtre, présuppose chez vous, avant tout, un rapport au monde?
Pour moi, écrire, c'est d'abord un projet d'apprentissage, un projet de recherche, si on veut. Je dirais même que c'est ma pratique spirituelle. C'est que, pour moi, d'abord, un projet d'écriture, c'est d'arriver à me situer par rapport à mon environnement, et ça, et l'environnement dans lequel nous vivons, et duquel nous venons. Donc l'environnement est très vaste, à toute la pratique, c'est l'univers. Mais aussi de me situer par rapport à ce monde qui est à l'intérieur, et de mieux comprendre à toute fin pratique. Et j'aime peut-être pas le mot comprendre, mais il y a une partie de compréhension, il y a un travail de recherche, il y a un travail d'intelligence, mais il y a aussi l'intelligence de sentir des sentiments et de l'intuition surtout, d'intuitionner quel est ce monde. Parce que moi je ne fais pas un travail de scientifique, je fais un travail de poète, donc, ou en poésie. Et donc, pour moi, c'est d'intuitionner, à partir, oui, de certaines connaissances, mais c'est d'intuitionner quel est ce monde, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de moi.
Ce rapport de l'intérieur, eu égard à l'extérieur, comprend chez vous, et je pense en particulier au poème 5 de votre recueil, une intuition, j'aime bien ce mot-là, de l'origine de ce monde, de sa genèse, non pas au sens biblique, mais ce qui me paraît extraordinaire, d'une très grande actualité, une intuition de ce que le poète sent, sait, c'est transmettre en langage poétique de ce que la science nous enseigne sur le devenir monde. Et avant d'aller dans
quelques détails. J'aimerais bien, si vous voulez bien, que vous nous lisiez le poème numéro 5.
Dans la pierre brûlée à la lave rouge, l'eau vierge désire la maternité des paradis galactiques. Les parélies n'ont pu féconder les eaux hivernales. Les dendrites stellaires racontent l'infinitude, l'impermanence des anges, et que la vie s'accomplit. Les eaux vierges portent la promesse des femelles fécondes, les rythmes qui rêvent les générations. Les dieux créateurs se sont entretués au théâtre de leurs héritiers, où brillent les astres éteints, s'allument les nébuleuses d'étoiles naissantes. Les parcelles créatrices en nos yeux percent les ombres jusqu'à l'émerveillement. La vie s'accomplit dans les arbres, l'éclair, la pluie, par le chevreuil et l'ours, l'envolée des oies blanches, le plongeon des fous de bassin, les mollusques et monstres marins, la moraine laissée par les glaces. Je porte les masques des origines animales.
Merci Guy Jean pour cette belle interprétation, parce que ce n'était pas une lecture, une interprétation de votre poème. Dans quelle mesure ce rapport au monde fut-il, restera-t-il marqué par ce que j'aimerais bien appeler votre Acadie natale? Parce que vous êtes né à Campbellton, au Nouveau-Brunswick, et j'aime bien mettre l'accent sur ce que ça signifie spécifiquement pour vous, disons, la baie de chaleur.
Je pense que ce poème veut aller beaucoup plus en avant, plus loin que ça. Parce que ce que j'ai tenté de faire dans ce projet, c'est pas du tout de dire qui suis-je.
Non.
Et quelle est la saga de mes ancêtres, etc.
Non.
C'est beaucoup plus de me situer comme élément de conscience, de connaissance depuis le début du monde. Et c'est sûr, c'est certain que dans tout mon travail, l'imaginaire que j'ai développé dans mon enfance, en regardant la baie des Chaleurs, en étant dans ce milieu-là, et aussi, si on veut, toute la culture, qui était une culture orale très riche, la culture acadienne, alors tout ça a meublé mon imaginaire et fait partie de ce que je suis à l'heure actuelle. Par contre, dans les poèmes, dans ce livre en particulier, même si à certains moments, je touche de cette partie, si on veut, c'est que je veux me situer beaucoup plus en dehors de ma personne, en dehors du genre humain, pour être tout simplement un élément dans l'univers et être partie prenante de cette évolution qui a été la nôtre.
Mais je vois quand même dans ce poème qu'on vient d'écouter, il y a là des renvois aux éléments. Il y a l'eau, il y a la pierre, la création et aussi l'aspect biologique. Les eaux vierges portent la promesse des femelles fécondes, les rythmes qui rêvent les générations. Donc, c'est un poème, comme vous le dites, qui n'est pas un poème qui renvoie à l'itinéraire d'une famille, d'un peuple, peut-être. Mais c'est effectivement l'ancrage du vécu dans un lieu et dans la grande continuité de la vie sur Terre et chez vous. Je suis curieux de savoir, parce que c'est le titre qui me fait...
Fossiles qui gisent en mes rêves.
Voilà. Donc, il s'agit de fossiles qui sont, qu'on trouve à la côte nord, un peu partout, dans votre région. Et peut-on dire que sont pour vous des signes d'un vécu au niveau, à la fois sensuel et affectif, ou peut-être même au plan social, voire culturel et politique. Mais interprété de telle sorte que le particulier devient le général qui nous invoque, qui nous interpelle.
C'est évident que je pars de mon expérience, que je pars aussi des connaissances qui m'ont intéressé, mais dans ces poèmes, j'ai voulu me situer au-delà de ça, sans nécessairement le rejeter, mais me situer. J'ai été beaucoup influencé par un projet que j'ai fait sur l'eau il y a quelques années et qui m'a amené à voir comment on situe les débuts de la vie, soit dans une pluie stellaire, soit à partir des chauffeurs noirs au fond de l'océan. Et ensuite, on sait que l'humain est dans l'eau, dans le ventre de sa mère. Mais c'est que j'ai été beaucoup fasciné par ces débuts de la vie qu'on situe à toute fin pratique dans l'eau. Donc, je suis parti avec ces images-là. Et que cette eau, au départ, avant même que la vie existe, elle avait comme cette tension vers la fertilité, déjà. C'est un peu l'image que je crée avec ça. Je suis interpellé par votre question au niveau de mon passé, de là où j'ai passé mon enfance, une partie de ma vie. Mais dans ces poèmes-là, je pense que c'est accidentel, les références qui peuvent se situer dans cette expérience-là. Et pour moi, les fossiles ne sont pas des fossiles matériels, mais c'est ce que nous portons en nous, dans nos gènes. Quels sont ces fossiles qui sont en nous, auxquels on n'a pas accès directement et qu'on peut classer, mais qui ressortent dans ce que nous sommes et qui ressortent peut-être davantage dans nos rêves. C'est vraiment là que je me situe.
Et je trouve le verset au milieu du poème 5 me paraît tout à fait indicatif de ce que vous venez de dire. Vous voulez le redire, s'il vous plaît? Les dendrites?
Ah oui. Les dendrites stellaires racontent l'infinitude, l'impermanence des anges, et que la vie s'accomplit.
Merci. Donc, vous avez, avec ce vers-là, amalgamé le macrocosme et le microcosme, n'est-ce pas? Quel est votre rapport à la temporalité?
D'abord, avec cela, moi je dis, quand on regarde l'univers, qui se développe. Et on a aussi fait des recherches où on voit que, par exemple, les mouvements des courants dans la rivière, etc., on retrouve dans les os des animaux les mêmes patrons, etc. Il y a en nous ce macro, c'est comme vous le disiez, les dendrites sont à la fois, dans le fond, les neiges, la neige, les flocons de neige, ils sont aussi ces choses à l'intérieur de notre corps. Mais, alors, ce que j'ai voulu dans ce livre-là, c'est précisément de défaire le temps, c'est-à-dire de ne pas me situer dans un temps linéaire, mais tout en regardant comment le monde s'est développé et là où nous en sommes, mais de me situer comme hors du temps, comme toujours présent à cela. Et c'est ça que j'ai voulu faire en me disant que ce que nous sommes comme humains ou comme animaux, c'est que on est reliés et on s'est bâti à travers tout cela. Alors si on se regarde comme à toute fin pratique de la matière en évolution, on est de tout temps. Ce que j'ai voulu dans ce livre-là, c'est précisément de défaire le temps, c'est-à-dire de ne pas me situer dans un temps linéaire, mais tout en regardant comment le monde s'est développé et là où nous en sommes, mais de me situer comme hors du temps, comme toujours présent à cela. Et c'est ça que j'ai voulu faire. En me disant que ce que nous sommes comme humains ou comme animaux, c'est qu'on est reliés et on s'est bâti à travers tout cela. Alors si on se regarde comme à toute fin pratique de la matière en évolution, on est de tout temps.
Revenons au mot d'entrite. C'est aussi, vous l'avez dit, par renvoi aux flocons de neige, aux cristaux, hein, c'est un terme qu'on utilise pour décrire l'arborisation formée de fins cristaux. Hein. Par exemple, à surface de diverses roches. Hein. Donc, ça me paraît fascinant, même dans la sémanticité de ce mot, vous avez eu pour moi le bonheur de renouer ces deux dimensions.
Pour moi, c'est le propre de l'écriture poétique. C'est de donner au mot, d'une part, tout son sens, qu'on le redécouvre dans ce qu'il est, mais aussi j'aime l'expression de le rendre enceinte, c'est-à-dire par les rapports avec les autres mots. Le mot s'agrandit dans son sens, il prend un autre sens. Et parfois, on n'est même pas conscient de tous les sens qu'on peut donner. J'aime toujours la rebuffade ou que Robert Bly avait servi à quelqu'un qui lui posait une question, « Qu'est-ce que vous voulez dire par ce poème ?» Il a dit « Je ne sais pas. » Mais il a dit « C'est vous qui l'avez écrit. » Mais il dit « Si je le savais, ce serait un essai. Ouais. » Et j'aime cela, même si c'est un peu facétieux, c'est que on réussit, malgré nous, à charger les mots de sens qui nous ont peut-être échappé au départ. Et c'est là que je vois où entre le métier, où entre l'intuition, où entre la chance. Mm-hmm. Et si je parle de chance, c'est ce qui vient lorsqu'on a beaucoup travaillé.
Mais bien sûr.
Mais qu'on n'est pas toujours conscient de l'avoir, parce que c'est pas juste de la fabrication, comme on dit en anglais, du crafting, mais il y a aussi toute cette part d'imaginaire qui tente de se lier aux mots. Et voilà.
Vous le dites très bien dans ce vers, les dendrites stellaires racontent l'infinitude. L'infinitude du sens aussi, n'est-ce pas? Des possibilités de signifier. Mm-hmm. N'est-ce pas? Et pour ce qui est de la temporalité, je n'ai pu m'empêcher de penser à un poème de René Char, dans Proposition, Rappel, 1931, où il suggère, citation, que la poésie s'incorpore dans le temps et l'absorbe. On pourrait inverser aussi le rapport. Est-ce que vous êtes absorbé par le temps d'écriture? Ou est-ce que vous vous incorporez dans l'acte d'écriture? C'est peut-être trop délicat, mais j'aimerais bien vous faire partager, réfléchir un tout petit peu. Quelle est la part de votre subjectivité dans l'acte d'écrire? Ou est-ce de l'ordre de l'inconscient?
Moi, je pense que je vois d'abord le travail d'écriture comme un travail conscient, où on doit réfléchir, on doit prendre des notes. Bon, je le vois comme ça. Et à mesure que je réussis à mettre ensemble un texte, tout d'un coup, là, entre l'inconscient, entre... Là, je vais piger dans mon imaginaire, sans trou des fois, sans que ça soit direct. Je veux dire, mais tout d'un coup, les mots eux-mêmes font naître d'autres mots.
C'est ça.
Et ça, est-ce que c'est relié à l'inconscient? Est-ce que c'est relié à la mémoire? Est-ce que c'est relié à l'intuition? Je pense que c'est relié à tout ça. C'est pas un travail direct, parce que ce n'est pas comme de décrire un essai. Alors, du moment qu'on commence à travailler avec les mots, je pense qu'il y a les mots s'entrechoquent et créent d'autres choses. C'est comme ça que je le vois.
J'aimerais bien passer maintenant à un autre aspect de votre travail de poète, tel que suggéré par le sous-titre de votre recueil, hein, « Poème archéologique ». Et je veux essayer de vous tenter un tout petit peu par la métaphore archéologique. Je me demande si vouloir fouiller, creuser et approfondir ce rapport au monde, vu justement comme présence dans le temps, dans le vôtre, et comme existence nécessairement confrontée à la mort, est-ce que cela présuppose qu'on doit, en tant que poète, en tant que créateur, prospecter au préalable le terrain à explorer, à la manière des archéologues? Et cette prospection du lieu en vue de connaître sa fertilité, hein, enfouie, hein, cette prospection est-elle un travail de mémoire ou est-elle un travail de rêve?
J'ai été beaucoup fasciné par le devoir de mémoire lorsque j'ai travaillé sur la violence, et particulièrement au niveau de la Shoah ou de d'autres génocides. Donc, je pense que l'écriture poétique a un devoir de mémoire, dans ce sens-là, de nommer les choses, et aussi de regarder derrière les apparences, derrière la carte postale, derrière les masques, de tâcher de voir ce qui est, ou de montrer ce qu'il y a derrière. Donc de montrer ce qui se présente à nous, non pas seulement dans son apparence, mais de façon plus vaste, passer autour, faire le tour, pour voir. Et c'est évident qu'on pige dans nos rêves. Et, bon, on se pose toutes sortes de questions. Puis est-ce qu'on est des êtres qui sont rêvés par, ou est-ce qu'on est le rêve de nos rêves? Mais il reste qu'il y a une place, puis si on regarde chez les enfants et chez certaines personnes âgées, où entre l'éveil et le rêve, la limite est très mince.
Oui. Je reviens à cette intuition que j'avais que votre écriture porte aussi les marques, sinon est indice de ce que j'appelais tout à l'heure le désir, le pulsionnel. Je reprends les images, plaisir, volcan, colère, vengeance, peur, silex, rire, cri dans l'acte pour mettre à vie, et puis évidemment le sommeil, caverne d'où naissent les rêves rupestres. Je pense évidemment aux peintures rupestres, souvent à ocre rouge, localisées sur la côte nord, au Québec, en Témiscamingue ou en Abitibi. Mais qu'est-ce que veut dire pour vous, vu ça peut-être en France aussi, les signes rupestres ou la peinture rupestre dans une caverne préhistorique? Et en ayant pu, lors de l'acte d'écrire, associer cette image au sommeil et au rêve, ça me paraît d'une densité extraordinaire. Je reprends donc l'image, la métaphore. Le sommeil, caverne, d'où naissent les rêves rupestres. Je voulais même vous tenter un tout petit peu en essayant de voir le rapport. Est-ce que l'écriture est à la peinture rupestre ce que le rêve est au désir? Ou est-ce tout ça par association inconsciente? Est-ce que vous aimeriez commenter un tout petit peu cette image, le sommeil, caverne, d'où naissent les rêves rupestres?
D'abord, je suis fasciné, moi, par les peintures rupestres, par le fait que des proto-humains, quoi, qu'on regarde comme des êtres moindres, arrivent pratiquement dans la noirceur à reproduire des animaux avec une habileté incroyable, et surtout parce qu'ils n'avaient pas de modèle devant eux, avec une mémoire.
Et avec un art pour nous autres, avec une stylisation. Hein.
C'est ça. Et avec une mémoire qui pouvait seulement venir d'une très longue observation.
Oui.
Ça me fascine. Et je trouve la caverne à ce moment-là, comme on l'appelle métaphore, ou comme lieu imaginaire, d'une richesse incroyable, parce que la création à l'intérieur de cette caverne, mais ce que ça représentait, parce qu'il y avait aussi ce qu'on connaît moins, mais qu'on a certaines hypothèses, que c'était relié au chamanisme, à la magie, et que on s'en servait pour peut-être préparer la chasse, etc. Mais ça, mais de toute façon, c'était et qu'on dit que c'était aussi des lieux initiatiques. Alors, il y a toute la richesse de ces lieux-là, et nous, ce qu'on y voit, c'est ce qu'on y a laissé. Et comme vous dites, avec un travail d'une beauté remarquable et d'une technique remarquable aussi. Donc je trouve que la caverne, comme lieu imaginaire, avec ses peintures rupestres, est très riche pour moi. D'ailleurs, dans le poème suivant, je dis « J'appelle le tonnerre des sabots et peins leur course sur les parois de mes entrailles. » Donc, je fais un lien entre ce qui est à l'intérieur de nous et ce qu'on peignait sur ces parois des cavernes. Mmh. Alors, je trouve ça d'une force incroyable, comme lieu, comme je trouve ça puissant, comme lieu, et pour nourrir l'imaginaire.
On connaît bien la trajectoire de cette métaphore de la caverne. Ça n'a rien à voir chez vous avec Platon.
Non. Ben, je me rappelle même pas de la caverne de
Platon. Entendu.
Mais
les anthropologues nous ont expliqué que dans certaines cavernes préhistoriques, on suppose que c'était le lieu. Et je me demande, donc, parce que vous tenez beaucoup à cette image donc, de la caverne intérieure, qui est à l'image des cavernes où il y a des peintures rupestres, où il y a des signes porteurs d'un sens multiple, tout en étant à la fois stylisé et de l'art. Est-ce que ce lieu sacré de la création est aussi le lieu pour vous, en tant que poète? Y a-t-il un rapport entre l'écriture et le sacré?
Je disais au début que je vois mon travail d'écriture comme ma pratique spirituelle. J'ose à peine utiliser le mot sacré.
Il ne figure pas dans le recueil.
Non. Moi, ce qui me fascine quand on parle des cavernes, ou quand on regarde, j'ai lu les différentes mythologies du début du monde ou sur les Genèses, ce qui me fascine, c'est comment, que ce soit des chamans ou autres, c'est que l'humain tentait d'expliquer son monde autour de lui. Et donc, créait des dieux, créait des êtres qui influençaient son quotidien et qui peut-être que lui pouvait influencer pour qu'ils influencent son quotidien. Je me dis que maintenant, alors qu'on connaît de plus en plus notre univers et qu'on est capable de l'interpréter autrement, peut-être que le lieu de cette recherche de l'invisible, de l'inconnu, est davantage à l'intérieur de nous. Il est beaucoup plus à l'intérieur de nous. Et on continue à rechercher dans l'univers, mais il y a tellement de choses qu'on connaît si peu de nous et d'où ils viennent. Alors moi, je vois de plus en plus ce travail de recherche de l'indicible ou, si on veut, de l'invisible se faire à l'intérieur. Et c'est ce que j'appelle une pratique spirituelle. Donc, une pratique qui se situe non pas dans la matière extérieure, mais dans comment on se voit, comment on se situe dans l'univers.
Pigeon, poète acadien, qui vient de signer un nouveau recueil intitulé « Fossiles qui gisent en mes rêves », sous-titré « Poème archéologique », paru aux éditions Perce-Neige à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cet entretien et je vous souhaite bonne continuation et au plaisir.
Merci beaucoup, Hans. C'est moi qui vous remercie.
Au revoir, Guy.
De CKCU FM 93,1, la radio de Carleton University à Ottawa, Canada, c'était Les actualités littéraires dans le monde francophone, une émission de CKCU Literary News, diffusée en continu et en différé, telle qu'indiquée sous CKCU Literary News dans Google. Nous sommes aussi sur Facebook et Twitter sous CKCU Lit News, en un seul mot. Merci et au plaisir de vous lire!